All right. Donc voilà, c'est parti pour une fois de plus. Bonjour à tous, bienvenue à Parlons Mahjong avec Monsieur Mahjong. Aujourd'hui, je suis accompagné de Paki Wong. Bienvenue Paki à Parlons Mahjong avec
Bonjour.
Monsieur Mahjong. Donc aujourd'hui, c'est un Monsieur Mahjong festif que nous avons parce qu'il y a l'arbre de Noël présent juste ici. Donc c'est bientôt Noël déjà, là. Le temps passe vite pareil en pandémie. C'est ça, aujourd'hui on est avec Paki. Paki, veux-tu te présenter, parler un petit peu de ton parcours de Mahjong?
Bon, comme Monsieur Major Deji, je me fais Faki Wong. Ça fait les années que j'ai joué au Mahjong. J'ai appris le jeu quand j'étais petit. Je dirais quand j'étais en première ou deuxième année. Mais j'ai appris la variante Hong Kong. Et puis j'ai joué au Mahjong depuis quand j'étais petit jusqu'à aujourd'hui. Donc ça fait, je dirais, à peu près une trentaine d'années que je joue au Mahjong.
Ah, c'est bon. Ça fait plus longtemps que moi, en tout cas,
Mais ça, pour moi, ça aide parce que le mahjong, c'est une grande partie de divertissement en Asie. Peu importe, peut-être pas en Inde, parce que moi, je ne connais pas vraiment comme le mahjong en Inde, mais en Chine, Japon, le Corée, ils ont comme chaque variante de mahjong. Donc, ça c'est quand même ça, c'est un grand jeu dans l'Asie. Donc, pour moi, au Taïwan aussi, ils ont leur variant à eux.
Oui, c'est
Donc,
vrai.
c'est vraiment dans notre culture, même s'il y a comme les petits changements d'un pays à l'autre. J'ai grandi avec, donc ça aide à voir. Si j'ai grandi avec, c'est sûr et certain que moi, je joue plus longtemps que toi. Ça, c'est sûr.
Ouais, c'est ça, c'est sûr et certain, là. Moi, j'ai commencé, ça fait juste 4 ans, là, presque bientôt 5, là, fait que j'en ai encore à apprendre, mais c'est pas pire.
Tu rapport un bon point. Je pense que même un vieux joueur comme moi, là, on apprend toujours. Parce que je pense que avec n'importe quel jeu, il y a toujours les améliorations à faire. Donc, même si pour quelqu'un comme toi qui a joué 4-5 ans, le parcours et l'apprentissage est différent que quelqu'un comme moi qui a joué à peu près une trentaine d'années. J'apprends toujours. Et on va parler de ça plus tard aussi. Parce que quand j'ai commencé à jouer au Ricci, pour moi, c'était un apprentissage.
Ouais, ça
Parler
doit,
de
là.
ça plus tard.
Ouais, puis non, c'est sûr que tu sais, c'est spécial le Mahjong parce qu'il y a tellement un skill ceiling, là, un plafond de niveau qui est tellement élevé, là. Tu sais, j'ai l'impression que même si ça fait longtemps, ben ça fait longtemps entre guillemets, tu sais, on apprend toujours, puis on continue, puis des fois en jouant contre des joueurs, d'autres joueurs forts aussi, on découvre des stratégies qu'on n'aurait pas pensé auparavant, là, comme tel, là.
Ça, c'est. Je pense que la stratégie, c'est relié avec la personnalité. Si quelqu'un joue dans une façon, je dirais pas agressive, je veux pas utiliser ce mot-là, mais quelqu'un qui joue vraiment pour gagner, pour vraiment avoir les mains, n'importe quelle main, ça peut être une main une petite main, ça peut être une grosse main. Ça, c'est une façon de jouer, ça, c'est une stratégie différente que quelqu'un qui est super défensif, que dès le moment, quelqu'un est soit enrichi, mais normalement enrichi, ou quelqu'un, on voit les signes, comme en poker, il y a une telle, des fois, il y a les telles des gens qui sont prêts. Et puis là, les joueurs défensifs, si eux, ils sont même à tempi moins 1, au lieu de juger, il me faut juste une tuile, puis moi j'en ai une main assez forte aussi, ou une très forte main, détruite tout de suite. Tout de suite. Il y a les joueurs comme ça, puis il y a aussi les joueurs comme entre les deux, qui regardent la situation, puis dépendant de ce qui arrive, ils foncent ou ils jouent défensivement. Donc,
Ouais.
ça, vraiment, ça dépend de la personnalité de quelqu'un.
Puis moi je trouve que tu sais c'est un aspect qui est tu sais de justement jongler entre être agressif et être défensif. C'est un des aspects stratégiques que je trouve le plus difficile à maîtriser aussi au Mahjong parce que tu as tellement de situations puis la chance joue quand même un rôle aussi là-dedans que tu sais c'est dur des fois de jauger OK est-ce que ça c'est le bon move ou ça c'est le bon move. Des fois tu vas faire le bon move, mais tu vas dead-end pareil, tu vas te faire call des runs dessus pareil, même si tu as fait le bon move, là, puis...
C'est vrai, ça c'est exactement ça. Ça c'est la nature chance de jeu. Mais dans ce cas-ci, c'est plutôt choisir une tuile à jeter qui donne moins de points. Je me rappelle d'un film parce que les Hongkongais puis les Chinois, ils adorent, mais comme n'importe tous les autres Asiatiques qui adorent le
Ouais.
Mahjong. Je me rappelle d'un film au sujet du Mahjong, c'est une comédie.
OK.
Et puis, je me rappelle pas le titre de film, mais ce qui se passe, c'est que le personnage principal, c'est quelqu'un qui est très doué, qui est chanceux, très chanceux Mahjong. Il gagne les grosses mains presque toujours. On sait que c'est juste une histoire, c'est un film, c'est pas réel. On ne peut pas toujours gagner les grosses mains. Mais lui, dans l'histoire, c'est que lui, il gagne toujours les grosses mains. Et c'était sa blonde qui l'a aidé, j'imagine, qui a dit les prières pour lui. Je me rappelle pas exactement ce qui se passait, mais la blonde a dit comme le contraire. Elle a fait une prière, genre, je te souhaite la mauvaise chance, la mauvaise chance que tu ne gagnes des grosses mains, genre, comme ça. Puis,
Ah non.
dans l'histoire, c'est ce qui est arrivé. C'est après ça, il ne que perd. C'est comme.
Ouais, il gagnait plus, là.
Il commence avec la main, puis il jette une tuile, puis la prochaine tuile qui arrive, c'est la même tuile qu'il vient jeter.
Ah
Donc,
non.
dans ce cas-ci, c'est juste qu'il sait que sa main n'avance pas, donc il jette, il cherche, il jette, c'est ça. Mais une leçon importante qu'il a montrée dans le film, à un moment donné, pour des raisons bizarres, il commence à jouer avec sa blonde. Et puis il avait une main disjointe. Mais il ne peut pas appeler une main disjointe parce que c'est pas au début de partie. Et il y a les variants qui n'acceptent pas ça non plus. Il y a les variants qui disent que il n'y a pas de main disjointe. Donc, les trois autres joueurs, ils sont déjà en attente. Et ils savaient, ils voyaient leur signe. Donc, sa blonde posait la question, quelle tuile est-ce que je jette? Et elle dit, est-ce que je jette les tuiles à droite? Et puis le personnage lui a dit, mais ces tuiles-là, le joueur à droite, il les veut. Ah bon, mais dans ce cas, je vais jeter les tuiles au centre. Et puis, il dit, les tuiles au centre, c'est mon voisin en face qui les veut. Ah, mais dans ce cas-ci, je jette les tuiles à gauche. Puis il dit, les tuiles à gauche, c'est mon voisin à gauche qui les veut. Alors, dans ce cas-ci,
aïe.
tu n'as pas la chance. Il faut que tu jettes quelque chose, c'est ton tour de jeter. Donc, le raisonnement qui était fait, mais par la blonde, c'est que le voisin à gauche attendait une main métisse. Et une des tuiles, je pense, c'était un or ou quelque chose comme ça, c'était un vent. Où ça vale pas ça donne pas un yaku de plus. Donc, elle dit, je prends une chance, je vais jeter ce tuile-là pour tenter la chance. C'est sûr, elle a jeté le nord, disons. Le voisin à gauche a clamé oui. Oui, c'est
C'est comme l'équivalent
dans ma
de
chance. Mais s'il avait attendu, il avait une main beaucoup plus élevée.
run.
Donc, encore une fois, c'est une histoire, c'est un film, mais il y a une leçon là-dedans. C'est, des fois, c'est il faut jeter une tuile, mais quelle tuile est plus secrétaire ou qui donne moins de points au adversaire?
Ouais. Moi, une stratégie que j'ai commencé à utiliser, là, c'est ce que j'appelle le tactical dating, entre guillemets. Tu sais, mettons, je vais être première place avec 50-55 000 points. Puis, tu sais, je vais avoir une bonne avance sur les autres joueurs. Mais je vais voir que quelqu'un se dirige vers une main à 1 000 ou 2 000 points. Puis, je vais lui donner une tuile que je pense qui peut être dangereuse contre lui. Puis, des fois, ça va porter fruit. Puis, ça va faire avancer le leadership d'un tour comme ça. Là.
Ouais, mais aussi, ça, c'est aussi une stratégie défensive. C'est sûr qu'on préfère ne pas donner. Ça, c'est le plus.
C'est sûr. Hein?
Mais si on voit que quelqu'un a une grosse main ou qui a l'air d'une grosse main, et puis quelqu'un qui a une main qui n'est pas si gros que ça, mais stratégiquement, de donner à la personne qui a une petite main, peut-être que ça porte plus de fruits. Parce que oui, même si tu donnes la tuile gagnante à la personne qui a une petite main, disons que c'est 3 900. Mais oui, c'est poche de perdre 3 900 points. Mais peut-être la grosse main, en sumo, c'est 8 000 chaque.
Ouais, quelque chose comme ça.
Ou Yakuman. Toi, tu es Oya, donc toi, tu perds 8 000. Et les autres perdent 4 000 ou 4 000, 2 000, 2 000, 8 000. Non, je ne me rappelle pas les mais en prenant la chance de donner à quelqu'un qui a une petite main, ça peut être moins de points si quelqu'un gagne une grosse main en sumo.
Ouais, absolument.
Ça fait chier un peu la personne qui a une grosse main, mais ça fait partie du jeu. Ça, c'est partie du jeu parce que ça ne peut pas toujours arriver. On ne peut pas toujours donner la bonne tuile à quelqu'un qui a une petite main. Parce que des fois, on pense donner la tuile et par chance, c'est la tuile dont la personne qui a une grosse main a besoin. Puis maintenant, c'est à l'envers. Donc, il faut payer.
Ouais.
C'est sûr que cette stratégie-là a un avantage puis aussi un désavantage.
Oui, c'est sûr que ça vient avec un certain risque, mais quand on peut jongler avec le risque, ça, c'est ça aussi la beauté du Mahjong.
Oui, bien sûr. Bien
c'est
sûr.
Que tu peux être confortable avec un niveau de risque plus élevé. Puis là, ça peut payer.
Je dois aussi dire que des fois, c'est difficile de faire une main poche.
Ouais, c'est vrai.
L'expérience que je suis comme, écoute, je suis en avance, je veux juste avancer le dealer parce que moi, je suis en avance. Et puis, je voulais comme une main rapide d'un yaku, là. Puis, je ne pouvais pas parce que les tuiles, j'avais pas les tuiles dont j'avais besoin pour une fast game.
Ouais, puis ça m'arrive des fois aussi, puis c'est frustrant parce que tu veux finir ça au plus sacrant, entre guillemets. Là. Ouais, mais tu peux pas tout le temps.
Ça, c'est aussi une beauté du jeu. C'est vrai, parce que il y a vraiment un élément de chance. C'est sûr que oui, il y a une stratégie, il y a une personnalité, on peut être défensive, on peut être offensive. Mais même avec tout ça, ça reste un jeu de chance.
Oui. Tout à fait. Dans le fond, on a parlé un petit peu du Mahjong Hong Kong, là, parce que c'est avec cette variante-là que tu as commencé, toi, au tout début. Puis, nous, avec M. Mahjong, puis en général dans la communauté au Québec, on joue plutôt au Richie. Donc, ça a été quoi ton expérience de passer du Mahjong de Hong Kong au Mahjong Richie? C'est quoi les grosses différences entre les deux variantes?
Euh, Heureusement, le variant Hong Kong, c'est avec 13 tuiles aussi. 13 plus 1, le doublon pour gagner. Donc, pour moi, le changement, c'était pas si intense que ça parce que j'avais déjà les principes. J'avais déjà, je sais comment faire une main, comment faire quatre triplets et un doublon. J'avais les mains de base. Mais le défi, le grand défi pour moi, c'est ne pas vraiment comprendre ce qui vaut un yaku dans le variant japonais versus ce que je connais pour les points dans le variant Hong Kong. Le variant Hong Kong, il y a deux variantes dans le même jeu. Il y a beaucoup de gens dans Hong Kong, ils jouent avec les fleurs. Donc, il y a 8 fleurs de plus. Donc, quand on mélange ces tuiles, puis à la fin, on met les murs, là, c'est 18 tuiles à la place de 17 parce que il y a 8 fleurs de plus total dans ces deux tuiles de plus chaque personne qui joue. Mais il y a beaucoup de gens à Hong Kong qui ne jouent pas avec les fleurs. Donc, je connaissais les deux variants. Les fleurs, c'était pas vraiment un grand défi, là. C'est juste que le siège, disons qu'on est Oya, donc ça c'est Est, donc c'est 1. Donc disons que si on pioche les deux fleurs de 1, mais ça donne deux yaku de plus. Ça c'est juste
Ah, c'est cool.
la différence. Des fois, si on peut avoir, parce qu'il y a quatre nombres et quatre saisons, genre. Mais c'est 1, 2, 3, 4 kanji. Et 1, 2, 3, 4, comme les chiffres en mathématiques.
Ouais, les chiffres
Euh, si on a réussi à avoir 1, 2, 3, 4 de la même famille, donc c'est soit les kanji ou les chiffres, mais ça donne un yaku, un point de plus.
Ah, c'est bon, ça.
Et le seul variant, c'est que dans certains cercles, si assez chanceux de piocher à avoir dans ta main les sept fleurs comme au cours de la main, il y a les sept sur les sept fleurs, tu peux déclarer ça comme un sumo pour la valeur minimum. Disons que la
Ah,
valeur
c'est cool.
minimale. Disons que la valeur minimum, c'est 3 fans, mais si tu pioches les sept fleurs, mais tu peux déclarer sumo 3 fans.
Ok, c'est cool.
Et puis, si tu es chanceux, puis tu as les 4, tu as les 8, mais là, ça vaut un peu plus. Mais il faut que tu déclares au moment que tu pioches la fleur. Disons que j'en ai
Oh,
jusqu'à 7e, il faut
shit.
que tu déclares tout de suite sumo. Parce que sinon, c'est une chance perdue. Je ne peux pas voir où, écoute, maintenant, j'en ai 7 fleurs, puis je vois maintenant, après 2-3 tours, oh, mes voisins, là, ils ont maintenant les grosses mains. Puis non,
Oh non.
maintenant j'ai dit, ah, je fais sumo, j'avais, c'était mon 3 fans. Ça marche pas comme ça. Il faut que
C'est vraiment au moment où tu le
ça, au moment que
piges.
c'est ça. Mais disons que je cherche le huitième fleur, mais là, je peux déclarer sumo sur le huitième fleur. Mais ça, donc, ça, c'est la, donc, mais c'est ça. Donc, un variant Richie japonais, pas de fleurs, même s'il y en a dans les ensembles de mahjong. Et puis, pour moi, le plus gros défi, c'est de prendre ce que je connaissais du variant Hong Kong et, je dirais pas s'adapter, mais plutôt savoir qu'est-ce qui vaut les yaku dans le variant japonais versus qu'est-ce qui ne vaut pas les yaku. Donc, quand j'ai commencé, ce qui me dérangeait, c'est que parce que il n'y avait pas vraiment quelqu'un qui m'a aidé à comprendre le système de points. Parce qu'on a fait la supposition que moi, je sais comment jouer, donc I can figure this out on my own. Donc, ça me frustrait parce que
C'est
moi, j'avais les
j'avoue
mains comme Honey Sue, et puis c'est comme Honey Sue, oh, juste deux yaku. Mais j'ai quelqu'un qui a fait Richie, Pinfu Tanyao, mais déjà, ça c'est trois yaku.
Ouais.
Et ça vaut plus que ma main. Donc, je ne comprenais pas au début pourquoi ma main, qui est Honitsu, valait moins que mon voisin qui est fait Richie. Richie Pinfu Tanyao. Donc, j'ai pas compris.
Ouais.
J'ai du temps de vraiment regarder les points et pour vraiment avoir une connaissance des ce qui vaut les points dans le variant japonais.
Ouais,
c'est sûr que les mains spéciales comme
très orphelin et tout ça.
Très orphelin.
Shosushi, puis Daisangan.
Les mains comme ça, là, c'est la même dans les deux variants. Même la main, je ne me rappelle pas le nom japonais pour ça, mais quand tu as 1, 2, 3, 4, 5,
6. C'est les Nine Gates, Turan Poton.
C'est ça, le Nine Gates. Aussi, ouais. C'est une grosse main dans le variant Hong Kong.
Ouais, c'est vrai que ça se ressemble à ce niveau-là. Là.
Donc, pour moi, j'avais déjà les connaissances de base avec ce variant. C'est juste que je ne savais pas c'est quoi le. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui
valait des points? Qu'est-ce qui était un peu mieux? Qu'est-ce qui était.
Et les petites choses comme le pinfu. Le pinfu, ouais. Dans le variant japonais, il y a les règles précises. Par exemple, il faut que tu sois fermé la main. Il faut que tu attends sur deux.
Oui, c'est ça. Il faut que ce soit une attente en fourchette, comme tel.
C'est ça, deux ou trois. Tandis que dans le variant Hong Kong, c'est, le pinfu peut être ouvert.
OK.
Dans le variant Hong Kong, ce que nous ciblons, c'est que on a quatre chi et un doublon. Ça peut être fermé, ça peut être ouvert.
Ouais.
Et aussi, on n'a pas le... mais je pense que les règles, ça change, on mélange les variants, mais le variant avec lequel j'ai grandi, là, il n'y a pas le concept de reach. Donc, ouais. Si j'ai une main fermée, je suis prêt, mais je ne peux pas signaler que je suis prêt
ouais.
Et que ça vaut le minimum. Disons, ouais. donc, si jamais c'est une table à Hong Kong, disons trois fans, mais puis tu as une fermée, oui, c'est pinfu, donc tu as un fan. Et c'est ça. Donc des fois, tu peux être en attente, puis ta main n'est pas au niveau requis de pouvoir gagner.
Ouais, ça doit être.
Et un autre concept difficile pour moi, qui a pris du temps pour moi de vraiment comprendre, c'est le concept de furiten.
Ouais.
Parce que au japonais, le furiten, c'est vraiment beaucoup plus précis que dans le variant Hong Kong. Parce que le variant Hong Kong, il y a le furiten, mais c'est une furiten temporaire. Disons que j'attends un 4-7 bambou, mon voisin qui a jeté une 7 bambou, puis j'ai manqué. Mais là, le voisin qui jette un 4 bambou qui suit, mais je ne peux pas clamer, il faut que j'attends un tour. Donc, moi, j'y pioche.
OK.
Et après, ça peut fonctionner.
OK, c'est ça, c'est vraiment ça.
Dans le variant japonais, si ta main est ouverte, ou tu n'as pas déclaré Richie. Donc, tu es juste en attente, mais tu n'as pas fait Richie, c'est quand même temporaire.
Ouais, alors qu'avec Richie, c'est permanent.
Avec Richie, c'est beaucoup ça. Plus fermé. Donc, si c'était déjà dans tes défenses, il faut que tu attends Sumo. Et si tu as manqué, je pense que tu dois aussi attendre en sumo, si je me rappelle bien.
Ouais, c'est ça, parce que c'est justement le furitaine est permanent si n'importe qui jette une tuile pendant que tu es en reach. Étant donné que tu peux pas changer ta main, finalement.
C'est ça. Donc ça, c'est, je dirais, les deux, trois défis pour moi entre les deux variants. Parce que on ciblait pas les mêmes pointages. On jouait pas de la même façon, même si c'est les concepts existaient, mais c'était regardé dans une façon différente, je pense.
Ouais, je comprends. Est-ce que tu penses que ça... c'est ben, comment je pourrais expliquer, comment je pourrais poser la question? Je trouve ça dommage un petit peu de mon côté qu'on n'ait pas, qu'on soit pas vraiment exposé à d'autres variétés de Mahjong à Montréal. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça, qu'il n'y ait pas vraiment une groupe?
Mais quand j'étais... c'est sûr que on a un changement de club, mais à l'époque, dans l'ancien club, c'est sûr que des fois, je demandais les gens s'ils voulaient jouer une petite partie rapide de Hong Kong. C'est sûr que le Hong Kong, c'est beaucoup plus ouvert.
Ouais.
Parce que le concept de Richie n'existe pas, donc il n'y a pas le besoin de garder la main fermée et puis pour déclarer que je suis prêt.
Ouais.
Et ça rend c'est un style de jeu différent, puis ça rend le jeu beaucoup plus ouvert. Et puis, il faut, dans ce cas-ci, les stratégies pour les variants plus ouverts.
Ouais.
C'est sûr que moi, j'aime toujours un bon jeu Hong Kong, c'est sûr, parce que c'est
juste
avec. Mais je trouve que la plupart des joueurs qui sont à l'aise ou qui sont expérimentés en Richie, ils n'aiment pas jouer à Hong Kong parce que c'est un variant beaucoup plus ouvert. Puis le variant japonais, Richie, c'est beaucoup fermé parce que en gardant la main fermée, on a beaucoup plus accès aux mains puis au Richie et tout ça. Ça, c'est le variant.
Ouais, donc, exact.
Pour les joueurs, de voir une main assez qui ouvre assez souvent et de plus en ouvrant, voir les valeurs des mains quand même élevées, c'est pour eux, c'est différent.
Ouais.
Et beaucoup basé sur la chance aussi, parce que si tu joues avec les fleurs, mais là, ça peut ajouter les fleurs, comme les yaku de plus, juste par hasard.
Ouais.
Et une autre défi pour moi entre les deux variants, Hong Kong versus Richie, c'est que le concept de Dora dans le Hong Kong n'existe pas.
Ouais, c'est vrai.
Il n'y a pas de Dora. Donc, au début, quand j'apprenais le variant Richie, encore une fois, j'ai une main Honitsu, ça vaut deux, mais j'ai une voisine qui a une main marde, juste Richie, chanceusement, a trois Dora dans sa main. C'est une main Mangan. Moi, je ne comprenais pas ce concept-là. Il me fallait du temps pour bien comprendre comment ça fonctionne les Dora.
Ouais.
Parce que pour les chiffres, comme les chiffres 1 à 9 pour les caractères, les bambous, les statiques, ça c'est facile parce que c'est celui qui est après. Puis si tu as 9, mais c'est le 1 qui est après.
Ouais.
Ça c'est facile à voir. Mais et même avec les vents.
Ouais, les vents, ça va aussi.
C'était facile.
C'est toujours des dragons de problème, là.
C'est ça. C'est le dragon qui est alors en inverse. Ça, ça,
ouais.
Parce que moi, au début, je suis comme, OK, bon, je vois le pattern. J'apprends, OK, donc le C, c'est le S, mais c'est le sud, le Dora, etc. Donc moi, tout à coup, je vois genre un dragon rouge. Je dis, le Dora, c'est vert. Puis non.
Non, c'est blanc.
C'est blanc. Je suis comme, mais voyons donc. J'ai bien appris ça maintenant. Donc, c'est Et c'est ça. Donc, au début, quand j'ai appris le variant japonais, je dirais que les Dora étaient. Ça m'énervait beaucoup, les Dora.
Ouais, je comprends.
Parce que c'est un peu comme leur variant des fleurs. Les fleurs dans le variant Hong Kong, ça m'énerve aussi. Parce que c'est juste les points de plus des chanceux. Donc, ça vraiment augmente la chance de quelqu'un.
Ouais, non, c'est sûr, là. Moi, j'ai trouvé un bon nouveau truc récemment. Ben, il y a toujours eu le truc de d'ordre alphabétique en anglais qui a bien marché pour moi.
OK.
Mais le nouveau truc que j'ai trouvé, c'est basé sur le vin. Parce que moi, j'aime ça boire du vin là, dans la vie.
OK, yeah.
J'ai un de mes amis qui me disait blanc, vert, rouge, rien ne bouge. Donc, c'est bon. Puis rouge, vert, blanc, tout fout le camp. Donc, ça, c'est pas bon.
Ah,
C'est vraiment blanc, vert, rouge. C'est
OK.
l'ordre des dragons, justement, là.
Ah, intéressant. Ça,
Fait
c'est
que
vraiment intéressant.
c'est ça, là, j'ai aimé, là. Puis, là, à cette heure, dans mes cours, ben, dans les séances de Mahjong, c'est ça le truc que je donne maintenant, là. Blanc, vert, rouge, rien ne bouge. Donc, t'as juste à te rappeler ça, là.
C'est ça. Pour moi, de rappeler ça, c'est juste que pour moi, les dragons, c'est à long terme. Parce que j'ai toujours appris, comme si jamais je fais une main à Kokushimichu, là, très orphelin, mais je sais que c'est est, sud, ouest, nord, rouge, vert, blanc. Mais parce que c'est la façon que j'ai appris comme cette main-là. Mais pour moi, c'est comme, oh, pour les Dora, c'est juste à l'ordre inverse. Donc, pour moi, ça, c'est comme la façon que. Maintenant, avec l'expérience, moi, je connais maintenant les Dora, donc c'est pas si pire.
Ouais, non,
Au
c'est ça.
début, c'était un peu difficile à maîtriser parce que j'étais un peu perdu. Puis, pour moi, je dirais pas que les gens étaient là pour m'aider, puis ils voulaient m'aider. Mais pour moi, le défi, c'est que je ne savais pas quelle question à poser parce que j'étais perdu. Dans le sens que je ne comprends pas pourquoi c'est ci, pourquoi c'est ça, etc. Donc, voilà.
Ouais. Non, c'est vrai que tu sais, ça donne un petit peu les choses en perspective, là. Quand tu viens d'une version comme Hong Kong qui va vraiment chercher des mains ouvertes, puis toutes ces affaires-là, c'est sûr que c'est ça qui va être plus valorisé, finalement. Alors que.
Ne dirais pas valoriser, mais c'est sûr que avec Hong Kong, puisque en ouvrant les mains, ça ne change pas grand-chose. Ouvrant les mains, l'avantage, c'est que tu avances ta main beaucoup plus rapidement, tandis que ta main reste fermée. Donc, ça, c'est le plus grand différence pour moi, c'est de voir, d'essayer d'avancer ma main en gardant ça fermé, parce que je sais que j'aurai accès à Richie dans le variant japonais. Donc, c'était le. Parce que le principe est pareil. En ouvrant les mains, tu as plus de chances de terminer plus tôt. Mais la valeur des mains, il y a beaucoup plus de différence entre les mains ouvertes dans le variant japonais puis le variant hongkongais.
Non, c'est sûr que, tu sais, avec toutes les mains qui se font fermer, je pense à Reach, je pense à Ipeko aussi, là.
Ipeko, PNC,
Puis Menzan Timo, tu
ouais.
sais, ça vaut vraiment la peine de garder la main fermée, là, au
Et
Reach.
ça aussi, le variant hongkongais, le sumo peut être ouvert. Tandis que ici, encore une fois, il faut, variant japonais, il faut que ce soit fermé pour avoir le sumo qui compte, comme un yaku de plus. Donc, c'est les petites différences-là que j'ai dû démêler entre les deux variants.
Ouais. Non, c'est pas évident, mais ouais, ça donne quand même des idées de c'est quoi les pain points finalement. Puis pour quelqu'un d'autre qui viendrait d'une variante de Hong Kong, on peut lui dire écoute, faut que tu fasses attention à ça, ça, ça. Puis
Oui, c'est ça.
c'est.
Donc, c'est sûr que si jamais dans notre club, je rencontre quelqu'un qui connaît le variant Hong Kong, puis qui apprend le variant japonais, mais là, je sais c'était quoi mes défis principaux, et je peux aider cette personne-là à comprendre le système de pointage pour le variant japonais plus rapidement.
Absolument, là. Puis ça c'est bon, là. C'est bon de déjà avoir une idée de OK, faut faire attention à ça. Puis ouais, ça peut aider, là.
C'est sûr, je suis d'accord avec ça.
Yes. All right. On va passer à un autre sujet. Je sais que c'est la première. En fait, même le premier truc auquel j'avais pensé en faisant l'idée de podcast avec toi. La question, c'est quoi qui fait qu'un endroit est bon ou est meilleur qu'un autre pour jouer au Mahjong? Parce que toi, au sein du club, tu es celui qui trouve les endroits puis qui dit, OK, on va aller jouer dans tel café ou tel bar.
Donc, je vais commencer avec le comme vision du jeu que les Asiatiques. Ok, je ne peux pas pour tous les Asiatiques, mais la mentalité chinoise versus la mentalité Amérique du Nord québécoise. J'ai beaucoup remarqué que le Mahjong, pour eux, c'est un jeu de société, c'est un jeu stratégique. Donc, pour eux, jouer au jeu de société, c'est pas. On peut jouer ça n'importe où. Pas n'importe où, mais on a plus de chances, plus d'endroits où on peut jouer à ça. Disons que. Ben, je sais qu'on ne parle pas de ça, mais Scrabble. Mais si, disons, on joue au Scrabble, là, ça peut être un pique-nique dans le parc, une journée d'été. Tu as apporté ton jeu Scrabble, mais tu peux jouer à Scrabble là, avec tes amis, dans le parc, avec du café, avec une vin, quoi que ce soit. Et pour les jeux de société, même, je dirais, en chinois, ça peut marcher. Disons qu'on joue aux échecs chinois. Et là, on voit ça assez souvent, même en Asie, les vieux messieurs qui jouent dans le parc, les échecs chinois. Ça arrive. Mais la culture chinoise, pour des raisons bizarres, le jeu de Mahjong n'est pas un jeu de société. Plutôt un jeu de chance. C'est de faire du gambling, c'est de gagner l'argent. Donc, moi, j'ai grandi en Amérique du Nord, donc je n'ai pas vraiment cette mentalité-là. Pour moi, c'est un jeu société, c'est un jeu stratégique. Mais pour les Chinois qui sont plus âgés que moi, qui n'ont pas grandi ici, mais c'est un jeu de chance. Et à cause de ça, on joue ça dans les endroits privés, donc chez quelqu'un. Ou dans les clubs Mahjong derrière les portes, etc. Donc, c'est sûr, pour moi, même si j'aimerais, disons, avoir encore Mahjong dans un café, comme un endroit bubble tea, etc. Mais c'est mal vu par les propriétaires
Je vois,
que les gens ne sont pas en train de jouer à un jeu de société, mais en train de jouer au jeu chance. Et puis,
ouais,
ça
je
rend les
comprends.
choses difficiles pour essayer d'avoir comme les rencontres de Mahjong dans les endroits chinois.
C'est pour ça que, par exemple, on joue rarement au Chinatown, comme tel.
C'est ça. Je sais qu'à l'époque, avant mon arrivée dans le club, on faisait ça au L2 Lounge. À l'époque, le propriétaire était cool avec ça. Mais finalement, l'histoire que je connais, c'est qu'à un moment donné, c'était plus accepté, puis ils ont pas comme. Je dirais pas, ils n'ont pas osé, mais c'est juste que ils n'ont pas dit dans une façon directe pour dire, écoute, on veut plus que vous jouiez ici parce que ça regarde mal pour notre entreprise, que nous ne sommes pas un bubble tea lounge, mais plutôt comme un Mahjong, un endroit Mahjong. Donc, on ne veut plus que vous jouiez ici.
Ouais,
Au lieu
puis
de Dire ça, ils ont utilisé une façon assez, mais assez louche, là. C'est juste qu'on a arrêté on a arrêté de prendre les commandes. Donc, tu es là, tu t'assois là, puis personne prend les commandes. Puis, on utilise cette méthode-là pour démontrer que tu n'es plus bienvenu. Donc, pour moi, il fallait je cherchais les endroits où, ce sont pas les franchises ou les chaînes. Parce que, disons que, comme un café Second Cup ou whatever, je nomme pas toutes les franchises, là. Eux, ils veulent pas avoir quelqu'un qui, ou un groupe de personnes qui joue au jeu de société. Pratiquement, c'est un jeu de société avec les tuiles qui peut être bruyant. Donc, le défi, c'est de toujours trouver un endroit qui est indépendant, qui n'est pas une franchise, qui a assez de place, parce que si c'est juste comme un petit endroit où on en a, disons qu'un juste 20 sièges pour les gens je vais prendre un café à l'intérieur, et puis notre club prend comme 16 des 20 places, mais bon, ça nous ne voulons pas faire ça. Donc quand même, c'est sûr qu'il y a un propriétaire qui ça ne dérange pas, mais ça regarde mal pour nous de prendre comme presque toute la place. Donc,
Ça va vite.
c'est ça. Donc, quand on regarde les critères comme ça, il n'y a pas beaucoup d'endroits qui restent. Donc, il nous faut les endroits indépendants. Normalement, les cafés, parce que dépendant les membres du club, dépendant, c'est un club adulte, mais on peut aussi faire ça dans les établissements qui servent d'alcool comme base de leur business, là. Mais si on n'est pas comme ça, mais là, on est restreint aussi dans le sens qu'on ne peut pas aller dans les bars parce que les gens moins de 18 ans, sur papier, n'est pas admis.
Ouais, c'est ça, là. Faut faire
Donc,
attention
c'est ça.
à
Donc,
ce niveau-là.
avec toutes ces contraintes-là, c'est difficile de. Donc, il faut garder ça tout en tête pour trouver les endroits qui de plus nous accueillent parce que des fois, je peux demander, parler au propriétaire pour pitcher l'idée. Et puis, soit ils ne se sont pas intéressés, ou ils disent oui, puis on arrive, puis ils changent d'avis, ou ils répondent même pas à mes demandes. Genre, il y a plusieurs cafés, genre, ah, ça a l'air café intéressant, indépendant, beaucoup d'espace, on peut monter une table ou plusieurs pour le mangeant. Et puis, je laisse mes coordonnées pour essayer de parler ou convaincre le propriétaire, puis je ne reçois jamais de réponse. Donc,
C'est ça
ça,
des
c'est
fois.
des défis. Il y a beaucoup de défis. Et la plupart des défis, je dirais, sont hors de mon contrôle. Donc, c'est ça. Je dirais, mon approche, c'est plutôt une liste où. C'est comme, est-ce que cet endroit accueille tout le monde? Donc, éliminant en plus les adultes, oui, check. Est-ce que cet endroit est un endroit indépendant parce que les franchises, les chaînes n'acceptent pas ça? Check. Donc, c'est ça. C'est plutôt un endroit où on nous accueille plutôt que une critère de qu'est-ce que je cherche. C'est sûr que ce que je cherche le plus quand on a le checklist, c'est que est-ce que cet endroit est abordable? Parce que pour être honnête, là, je n'ai pas vraiment envie d'aller dans un endroit où je joue au mahjong, puis ça me coûte 35-40 $ pour un café puis un sandwich. Et ça existe les endroits comme ça. Donc,
Ça peut monter vite, ça.
c'est ça. Et encore une fois, je ne dirais pas nécessairement que moi, j'ai pas d'argent. Moi, j'ai un emploi assez stable. Donc, pour moi, c'est correct de me gâter de temps en temps. Mais nous avons beaucoup d'étudiants dans notre club. Et puis, pour un étudiant, J'étais étudiant une fois, j'imagine toi aussi, tu étais étudiant
Ouais.
une fois ou plusieurs fois. 40 $ pour un café et un sandwich, ça monte vite, là.
Ouais, non, c'est
On a...
ça, là. Quand t'as pas beaucoup d'argent, c'est plus un game changer, là.
Ouais, c'est ça. Et l'autre chose que j'ai vu à Toronto, mais pas ici, c'est aussi avant la COVID, parce que maintenant, il n'y a presque plus, récemment à cause de la COVID. Mais je me rappelle les restaurants, quelques-uns, les restaurants chinois à Toronto. Ils offrent genre les repas mangeants. C'est-à-dire qu'on te met dans une salle en arrière, fermée, parce que... Quand même si tu ne joues pas à la viande dans un restaurant, c'est mal vu pareil. Donc, on te cache dans ça en arrière et puis on te fournit comme un repas pour toute la journée. Disons que tu commences genre 11 h, mais je ne me rappelle le prix, mais tu payes pour la journée de repas, puis tu joues au mahjong toute la journée, puis on t'apporte un dîner et puis on t'apporte un souper.
Ah, oh, c'est bon ça.
Mais c'est sûr que
ça doit monter vite, là, mais...
Ah, oui, mais aussi...
Mais ça vaut la peine.
Ça vaut la peine parce que c'est quand même deux repas. Puis, ce sont les repas assez... C'est sûr que c'est pas luxueux, mais c'est pas comme, on va payer 200 $ puis on te donne des toasts,
oh man,
le souper, une grilled cheese, là. c'est quand même on prend ton argent puis on te nourrit comme il faut.
Ouais. Donc, ah, c'est bon ça.
Je pense que j'ai ça, c'est ce que moi je recherche dans un endroit. C'est ouvert à tous, abordable. Et puis ça dérange personne, dans le sens que ça dérange les propriétaires, ça dérange pas les propriétaires, ça dérange pas les autres clients dans l'espace.
Ouais, ah, c'est bon. Fait que c'est quand même c'est quand même une bonne checklist de trucs pour un bon endroit, là. Prenez des notes à la maison. C'est genre de place qui est pas mal. Fait que c'est ça. Ben, ce serait bien un jour de voir un café de mahjong apparaître à Montréal.
Ouais, c'est sûr que ça peut être intéressant. Un café de mahjong, dans le sens que on peut juste, mais c'est un café à base, mais si on veut jouer au mahjong, mais on peut jouer au mahjong. Peut-être les variantes différentes aussi sont bienvenues, pas juste une style ou un autre style. C'est comme on peut apprendre comme tous les styles si on veut, parce que quand même il y a plusieurs variants. C'est sûr que le variant Hong Kong, c'est bien connu dans le monde, mais aussi le variant Ritchie, c'est bien connu. Mais il y a aussi le variant taïwanais, puis le variant vietnamien. Donc, il y a plusieurs variants. Et puis, chaque variant est un peu différent. Ils ont leur particularité. Mm-hmm. Et ça rend un défi additionnel.
Oui, absolument. La variante vietnamienne, je trouve ça intéressant parce que tu as des jokers, mais pour certains trucs spécifiques, là, mettons joker pour des caractères, joker pour les ronds, joker pour les bambous, etc.
Et il y a les grands jokers, c'est comme ça, peut
comprendre
n'importe quelle famille.
Ouais.
C'est sûr que ça, c'est intéressant. Puis, je trouve le variant taïwanais intéressant aussi parce que eux, ils font une main de...
C'est 16 tuiles, je pense.
16 tuiles, oui. 16 tuiles à place de... Non, c'est plus que ça parce que 4 triplets plus un blanc, c'est 14.
Ouais, donc ce serait 17.
18.
Avec le...
c'est,
18.
C'est...
OK, c'est 18.
Mais c'est un triplet de plus.
OK.
Donc, 17?
17, ce serait 17, ouais. Mm-hmm. Bon, c'est... c'est bien, là. Ça peut rajouter une certaine... comment je pourrais dire? Une certaine créativité...
Un autre défi.
Parce ouais, absolument. Là.
Un triplet de plus, là, c'est difficile à avoir des fois.
Ouais, ça doit, là. Oh, man, j'ai le goût d'essayer ça, là. Oh. Ouais. Le prochain sujet que je voulais aborder, c'est pardon, l'histoire du club, là, comment il a changé au fil du temps. Ça, c'est un sujet qui revient quand même de temps en temps dans les podcasts, là. On l'avait vu avec Olivier, puis je pense avec Lorenzo aussi. Donc, toi, ça fait longtemps que tu es avec le club de Richie de Montréal. Comment tu trouves que ça a évolué au fil du temps pour le mieux ou pour le pire, là?
Mais c'est toujours bien de jouer avec les gens pour moi. Ça, parce que le majeur en solitude, c'est beaucoup moins amusant. Même pour moi, en ligne, c'est. On manque beaucoup
D'interactivité, si on veut.
d'interactivité. C'est sûr que il y a beaucoup de changements, ça c'est sûr. On voit comme différents les joueurs de différents âges, les joueurs de différents styles. Et puis c'est intéressant de regarder puis s'adapter parce que chaque fois on joue avec quelqu'un avec qui tu n'as jamais joué, c'est intéressant parce que il faut que tu fasses le travail pour voir quel genre de joueur cette personne-là. Et quelle sorte de main cette personne aime cibler, etc., etc., etc. Donc, chaque fois que tu rencontres quelqu'un de nouveau, il faut que tu fasses ce travail-là. Et des fois, ça prend plusieurs fois de jouer avec cette personne-là avant de pouvoir vraiment avoir décortiqué comme il faut. Et puis après ça, mais là, tu sais quel style, puis tu as bâti un plan pour combattre. Je dis que à l'époque, les gens du club étaient, je dirais pas plus adultes, mais ce sont les gens qui connaissaient le jeu parce qu'ils ont l'expérience avec le jeu déjà. Et puis c'est comme, ah, mais ça, c'est une variante différente, je dois juste, comme moi, apprendre les différences. C'est quoi un Yaku, etc. Puis ils ont déjà les bases. Je trouve que maintenant, dans notre club, on accueille plus les gens qui ont appris du jeu par les animés. C'est comme, on regarde les animés, puis ils ont, ouh, c'est un jeu intéressant là. Et puis, grâce à ça, ils trouvent le jeu. Ce qui est bien, et c'est sûr que c'est pas tout avantageux. Disons que j'imagine dans les mangas, les mains sont toujours les grosses mains, on gagne souvent, et ce n'est pas la réalité avec un jeu de société avec de chance.
Non, c'est
Mais
ça, là.
ça, c'est la plus grande différence que j'ai remarquée. C'est en fait, je dirais pas une population, mais les membres un peu plus jeunes qui ont appris de ce jeu par les mangas, tandis qu'on accueillait les membres qui sont plus âgés, plus adultes, et qui ont appris le jeu soit par les films ou soit par leur expérience, leur propre expérience avec leurs amis ou leur expérience de vie. On avait une membre dans notre club. Elle a appris le variant Hong Kong parce qu'elle a habité à Hong Kong pendant plusieurs
Ah,
années.
c'est cool.
Donc, et puis, elle a trouvé le club ici à Montréal. Et puis, elle a appris, c'est sûr, un peu comme moi, le système de pointage pour le début. Et puis, elle peut jouer le mahjong avec ça. Donc, ça, je dirais, ça, c'est la plus grande différence entre les deux.
Ah, c'est bon. Ça donne quand même une idée. C'est vrai que, tu sais, quand on y pense, on est beaucoup de gens plus jeunes aujourd'hui dans le gym, là. Bon, moi, j'ai appris par Alex. Parce que à l'époque, c'était quand j'étais stagiaire où est-ce que je travaille en ce moment, là. Alex était genre, hey, on va faire des games de Mahjong, là. Puis j'étais genre, oh, c'est intéressant. Hein? Je suis intéressé à essayer, là. Puis ça a commencé comme ça pour moi. Mais c'est vrai que, tu sais, il y a beaucoup de monde, je pense à Claudel, à Anne, qui ont
C'est
commencé
ça,
par le
ils ont
tacton.
appris. C'est ça, ils ont vu ça dans les mangas. Ils ont dit, ah, c'est un jeu intéressant. Je veux apprendre comment jouer à ce jeu-là.
Ouais,
C'est
exact.
complètement normal. Je trouve que c'est complètement normal.
Ouais, non, c'est ça, là. Même
Mais c'est aussi, c'est sûr que je trouve les mangas, ils démontrent juste une façon de jouer. Toujours les mains les gens qui gagnent des grosses mains, qui ouvrent beaucoup. C'est comme, ils ouvrent les mains, ils sont déjà presque prêts. Ils piochent deux fois, ou ils font un pont, piochent deux fois sans attendre, puis c'est une grosse main. Je trouve que c'est pas réaliste comme image, mais c'est ce que les mangas
C'est arrangé avec le gars des vues, là.
montrent.
Ouais. Mais non, c'est sûr que ça fait une bonne différence. Là, c'est sûr que au jour d'aujourd'hui, c'est plus un peu plus compliqué de se réunir tout le club ensemble.
Oui,
Maintenant qu'on est rendu en ligne, je sais que toi-même, t'as pas joué avec d'autres gens depuis le mois de mars, là.
c'est ça. Mais en fait, depuis la dernière fois que notre club a rencontré en personne, je pense que c'est quand même février. Parce
Ouais,
que
c'est ça.
le début de mars, on a eu, mais il y avait un tournoi.
Ouais,
Et
à
puis,
Rochester,
je pense pas qu'il y ait une rencontre cette semaine-là, mais en tout cas, je dirais fin février, début mars.
là.
Je n'ai pas joué en personne.
Ouais. Ouais, non, ça va vite pareil, là, mais...
Ouais, ça va vite.
Ouais. Vivement que le vaccin arrive, là. Ça va être...
Ouais, on verra là, mais c'est sûr que je m'ennuie de jouer avec les personnes, avec l'équipe, etc. Mais voilà. C'est la vie. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé. Il faut vivre avec.
Oh, c'est ça. On se dit que ça va bien aller, là, mais...
Ouais, c'est
Ouais.
ça. C'est ce qu'il faut. Il faut croire. Il faut croire.
C'est ça. Mais c'est step by step, là. Je pense que quelque part au courant de l'année prochaine, peut-être l'été prochain, aussitôt que l'été prochain, on va pouvoir commencer à jouer tranquillement. Peut-être pas... au sein du club immédiatement, mais tu sais, au moins des petits rassemblements ici et là,
Ouais, mais on c'est ça. Je sais qu'il y a un
là.
vaccin. Il y aura un vaccin, mais je pense que c'est sûr que c'est difficile, puis on va y arriver, ça c'est sûr, mais il faut être patient. Je pense que ça c'est ça, il faut être
Le club va renaître de ses cendres.
patient. Comme les Phoenix, là?
Exact.
Exact, ouais. Mais je dirais pas on est mort, c'est juste que présentement, la seule façon qu'on peut se rassembler, c'est vraiment par l'Internet. Donc, on joue par l'Internet. Ça, c'est la seule façon, malheureusement, présentement. C'est ça. Mais moi, je vais être patient parce que un jour, je veux jouer avec les gens en direct, en live.
Non, c'est sûr, là. Ça fait une grosse différence jouer sur Internet ou en personne, c'est pas pareil, là.
Non, c'est pas pareil du tout. Tu as raison.
Ouais, c'est drôle, t'es en train de te replacer sur la chaise, puis avec la lumière, ça fait comme
C'est ça,
si...
c'est ça, c'est ça. Ouais. Parce que ça fait à peu près 1 heure que nous sommes assis, là, donc.
C'est ça, là, moi aussi, je commence à avoir des festifs un peu, mais... Non, c'est ça, des rencontres de clubs continuent quand même sur Internet. Ça. On
Ouais,
réussit
c'est
à
ça,
avoir.
ce qui est bien. Et c'est ce
C'est ça, là.
qu'on peut faire, c'est le mieux qu'on peut faire présentement.
C'est ça. Puis pour ceux qui veulent venir jouer avec nous au club, le lien va être en bas sur YouTube, là. Donc pour le serveur de Richie Mahjong QC. Par contre, ça risque d'être pour plus. Je sais pas si je vais avoir sorti la vidéo à temps pour la prochaine rencontre qui est demain.
Ah. Mais écoute, c'est
Mais on
normal
paierait.
chaque 2 semaines.
Ouais, c'est à chaque 2 semaines, fait que vous êtes toujours le bienvenu à venir jouer avec nous autres. Puis bien sûr, mais tu sais, je faisais aussi des séances de Mahjong là, au Otaku Manga Lounge. Là. Ça aussi, ça a continué en ligne, toujours.
Ah, ok, c'est
Donc,
intéressant, cool.
c'est ça, là. Ça continue. La prochaine est mardi prochain.
Ok.
Donc, rencontre, séance de Mahjong avec Monsieur Mahjong. Puis, là, dans celle-là, mardi, c'est normal, mais dans 2 semaines après, on fait un petit truc spécial. On va faire un petit tournoi Montréal contre Toronto, ce qu'on a
Ah,
appelé la classique canadienne.
ok.
On a fait un petit truc de style de hockey aussi autour de ça,
Ah,
là.
ok.
Fait
Cool.
que, ouais, non, c'est
Mais
du good
c'est
stuff.
intéressant.
Donc, pour ceux qui veulent se joindre à nous, il va y avoir des détails additionnels là-dessus qui vont être publiés bientôt, parce qu'on a encore quelques petits détails à régler, moi puis le gars du club de Toronto. Donc, à suivre pour la classique canadienne. Donc, c'est ça. Je pense que ça fait pas mal de tours. Ça fait quand même 1 heure qu'on jase ensemble. Est-ce
Ouais,
que tu
c'est
aimerais apporter quelques derniers points, Paki?
les mots de sagesse, j'imagine, si on peut les considérer comme ça, c'est
Ouais.
ce que quand j'ai appris le mahjong, on me dit. Et ce que j'ai aussi vécu, c'est que le mahjong est vraiment un jeu facile à apprendre. Parce que faire 4 triplets et un doublon, c'est facile. Mais ce qui est un défi, c'est vraiment maîtriser toutes les angles du jeu. C'est un jeu facile à apprendre, mais difficile à maîtriser.
Ah ouais, ça, je
Donc,
suis absolument d'accord.
si on commence ou on vient de commencer, on vient d'apprendre le jeu, il faut qu'on soit patient parce que il y a toutes sortes de choses dans le jeu qu'il faut apprendre par l'expérience et pas juste comme
Ouais.
au début. Ça c'est je sais, c'est un peu cliché, mais c'est la réalité, malheureusement.
Laisse-moi juste noter, facile à apprendre, difficile à maîtriser.
C'est ça.
Je pense que ça va faire un bon titre pour la vidéo, là. Difficile à maîtriser. Cool. Merci pour ta sagesse, Paki. Fait que non, mais je suis 100% d'accord avec ça, là. Il y a plusieurs ressources qui donnent de la théorie sur le mahjong, là. Par exemple, je pense à Richie Baukwan qui est disponible en ligne. Puis, tu sais, la théorie, c'est une chose, mais c'est sûr que tant que tu te pratiques pas, tant que tu n'es pas vraiment en situation de jeu, tu sais,
Appliquer la théorie, c'est différent.
c'est ça, là, tu sais, ça peut aller de n'importe quel sens. Là. Puis c'est vraiment en jouant beaucoup de games que tu vas venir à catcher qu'est-ce qui marche bien pour toi dans la majorité des cas, qu'est-ce qui marche moins bien dans l'autre majorité des cas. Puis non, c'est sûr que c'est un processus continu. Puis c'est une des raisons pourquoi que on dit justement que même aujourd'hui, on apprend encore beaucoup, là. C'est que c'est très, très, très difficile à maîtriser comme jeu, mais maudit que c'est le fun,
Ouais, c'est un jeu super amusant. Puis on rencontre beaucoup de gens intéressants en jouant ce jeu aussi.
ouais, absolument, là.
Beaucoup de mes amis sont, je les ai rencontrés en jouant au mahjong. C'est sûr que ça fait chier des fois. C'est comme, mais
Ouais.
c'est quand même un jeu rassembleur. Même si on travaille comme 4 personnes individuellement pour leur propre main, mais c'est rassembleur parce qu'on rencontre beaucoup de gens intéressants avec ce jeu-là, ce qui est intéressant.
Oh, c'est cool, là. Fait que, ouais, je pense que ça fait pas mal le tour pour le podcast.
Excellent.
Donc, un gros merci, Paki, d'avoir été là.
Ben, de rien, merci à toi aussi.
Puis, j'aurais le goût de dire on se revoit bientôt, mais je ne sais pas quand est-ce qu'on va se revoir.
Ouais, mais peut-être plus tôt que tu le penses.
Ouais, ce serait cool, là.
Ouais.
On se croisera à l'épicerie asiatique un moment donné,
Peut-être, à un
Wadi
moment
Antai.
donné.
Ouais. Je vais pas faire trop de publicité, mais les épiceries asiatiques, c'est bien. Puis on va au Lian Tai des fois là, à Saint-Laurent. Là.
Ouais.
Il est pas mal, là.
Non, il est correct, il est correct.
Ouais, il est bien. All right. Donc, ça va faire le tour pour le podcast. Je vais arrêter le recording dans pas long. Donc, merci à tous d'avoir écouté et à la prochaine pour un autre épisode de Parlons Mahjong avec Monsieur Mahjong. Salut.
Bye, merci.